Je vais faire quatre lectures dans Philippiens tout d'abord. Philippiens, chapitre 3. Vous savez que les Philippiens étaient les chouchous de Paul. Dans son épître, il a vraiment des mots très tendres à leur égard. Ce n'est pas toujours le cas des autres. Mais voilà, ils étaient très très proches avec Paul. Et dans Philippiens 3, 10, nous lisons ce que Paul déclare. Mon but, c'est de le connaître, lui ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, l'attitude de Paul, c'est pas de regarder dans le miroir. Souvent en voiture, si vous regardez le miroir, vous pouvez avoir des problèmes devant. Il faut juste le regarder, puis voilà. Mais il y a des chrétiens qui regardent que le miroir. Donc le résultat, c'est la catastrophe. Non, Paul ne regardait pas le miroir, il regardait devant. Oubliant ce qui est en arrière, je cours. Vous êtes des coureurs ce matin ? Vous êtes des coureurs ce matin ? Oui ? Philippe, Éphésiens. Un autre passage dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, à partir de verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, sans défaut, devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, donc le rachat, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunis sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté. Et vous, Dieu a un plan. Amen. Vous connaissez le plan de Dieu ? Dieu a un plan. Et vous, ce n'est pas du hasard. Le hasard n'existe pas. Dieu a des plans. Nous avons un souverain architecte dans le ciel qui ne fait pas simplement des plans pour construire du physique, mais il te construit, il me construit, il construit l'Église, il construit. C'est un constructeur. Amen. Il a un plan. Et ce plan, on peut le connaître. C'est quelque chose qui est fantastique. Alors, le verset 17 et le verset 18 de ce même chapitre dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. » On va s'arrêter là. Voyez-vous, ce plan doit nous est révélé, il est là, le plan, dans la Bible. Et quand on reçoit la révélation de ce plan, eh bien, nos yeux sont illuminés. Nos yeux sont illuminés et nous sommes remplis de joie de voir ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Amen. Dans Matthieu, donc deux autres passages, deux autres lectures, dans Matthieu, chapitre 28 et verset 18. Matthieu 28. Donc c'est la fin de Matthieu. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Tout pouvoir m'a été donné. Hein, c'est une déclaration de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voyez-vous, baptisez-les et enseignez-leur. Voyez-vous, ce n'est pas simplement le baptême, ça s'arrête pas, la vie chrétienne ne s'arrête pas au baptême. C'est enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et dans Actes, dernière lecture qu'on va faire ce matin, Actes chapitre 1, verset 8, nous dit, c'est à nouveau... Eh bien, le Seigneur qui parle, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la, toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. » C'est ce qu'on appelle la grande mission. Hein. La grande mission, la mission que Dieu a laissée à l'Église. Dimanche dernier, Luc Maroni vous a parlé du royaume. Le royaume de Dieu. Qui est-ce qui peut dire en une phrase quelle est la relation entre le royaume et l'Église, de ce qu'il nous a enseigné. Bien. L'Église n'est pas le royaume. Dites-le tous. L'Église. Le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a prêché pendant qu'il était sur la terre, le royaume de Dieu. Il n'a pas prêché l'Église. Il a utilisé le mot Église combien de fois? Deux. C'est dans les Épîtres qu'on retrouve le mot Église. Hein, à chaque fois, je salue l'Église. Donc, dans toutes les introductions d'Épîtres, on trouve le mot Église. Mais Jésus n'a parlé que deux fois de l'Église. Par contre, il a parlé tout le temps du. Et le royaume, c'est le. Continuez ma phrase là. Le royaume, c'est le règne de Dieu. Allez, le royaume, c'est le règne de Dieu. Et Dieu règne sur quoi? Uniquement sur la terre? Ah, faut tout dire. Hein. Dieu règne dans sur la terre et même sous la terre. Voyez. Donc le règne de Dieu est plus large que l'Église. Est-ce que vous êtes sous la terre? Non, pas encore. Hein. Est-ce que vous êtes dans le ciel? Pas encore. Donc, vous voyez, Dieu règne et son règne est plus grand que l'Église. Hello? Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Église. Et il y a une certaine similitude entre les deux, entre le royaume et l'Église, bien sûr, les deux sont connectés. Donc, je rappelle ce que Luc nous a dit par ses slides. Donc, l'Église est le royaume de Dieu. Et c'est une vision qui concourt, hein, concourir. On veut concourir un projet, on veut concourir dans le stade. Vous voyez, Paul, il courait. Et concourir, quand on met le mot « con » avant, désolé, mais « con », ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire ?« Avec hein. ». On court avec. Hein. Donc, dis à ton voisin « je cours avec toi ». Voilà. Ouais, c'est ça concourir. Ouais. On ne court pas tout seul. On court en équipe. Voilà. Et c'est ça l'Église. Ouais. Concourir. Hein. Donc tu ne dis pas à ton voisin qu'il est con. Hein. Et tu dis. Non, désolé. Mais qui court avec toi. Mais c'est la même chose. Ça veut dire concourir. Hello. Vous avez suivi? Alors Philippiens 3, 13. Hein. Vous voyez comme quoi. Parfois, les mots, ils sont connotés. Hein. Alors, Philippiens 3, 13, donc je le reprends, on l'a lu tout à l'heure. Hein. Il dit, pardon, je suis dans Éphésiens, alors là, ça ne va pas. Voilà. Frères, je n'estime pas avoir saisi, mais je fais une chose, oublie en arrière, ce qui est en arrière, tendant vers ce qui est en avant, je cours. Vers quoi? Vers le but. Vers le but. Donc, vous voyez, il y a dans l'Église, il y a un certain nombre de choses. Alors je rappelle le royaume. Hein. Le royaume, c'est d'abord, disons, un domaine qui se tourne vers Dieu. En anglais, c'est up, vers Dieu. Hein. Donc c'est un domaine qui concerne tout ce qui est le règne de Dieu dans le ciel. Hein. Et il y a des êtres célestes, il y a peut-être certainement des choses qu'on ne connaît pas et on n'a pas à le connaître. Hein. En dehors de ce que nous dit la Bible, mais il y a certainement des choses fantastiques qu'on va découvrir sur lesquelles Dieu règne dans le ciel. Hein? Ensuite, il y a un autre domaine qui est l'Église. Et l'Église, c'est... Pardon ? Oui, mais encore ? C'est toi ? C'est toi ? C'est toi ? C'est nous ? Voilà. C'est le peuple de Dieu. Hein? Le peuple de Dieu qui réunit qui ? Qui est qui ? Les Juifs ? Et les païens, vous voyez, c'est que avant c'était que les Juifs, le peuple de Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est toutes les nations, y compris les Juifs, avec les païens. Vous voyez, donc ceux qui élèvent le peuple juif, bon, peuple juif a une place particulière dans le cœur de Dieu. Il n'y a pas besoin de l'élever. Nous sommes tous le peuple de Dieu, avec les Juifs, qui peuvent nous apprendre des choses, mais nous aussi on peut leur apprendre des choses. Vous voyez, on est tous ensemble le peuple de Dieu. Ça, c'est l'Église. Hein. Le peuple de Dieu. Donc il y a ce deuxième domaine, et ce domaine-là, eh bien, c'est in. Hein, c'est Dieu est dans ce peuple, et il veut se glorifier dans ce peuple. Mais il n'y a pas que le peuple sur lequel règne, il règne aussi sur la cité, il règne aussi sur le monde, il règne aussi sur les nations. Voilà. Donc c'est ce que Luc nous a enseigné dimanche dernier. Il règne sur ces trois domaines. Et ça, c'est le règne de Dieu. Et en fait, le règne de Dieu, c'est disons, le centre, c'est l'intersection des trois. Ça couvre l'ensemble de tous ces domaines. C'est ça, le règne de Dieu. Donc, on ne peut pas, simplement, en parlant du royaume de Dieu, parler de l'Église. C'est d'ailleurs une grosse, grosse erreur que l'Église primitive, pas primitive les deux premiers siècles, mais les siècles après, ont fait. En déclarant que l'Église remplaçait Israël et que c'était le royaume de Dieu. Et donc ça a amené la persécution des Juifs, etc. Ça a amené le racisme contre les Juifs dans le christianisme. Donc il faut avoir la perspective de l'ensemble de ces trois domaines qui sont effectivement le royaume de Dieu. Et l'Église en fait partie. Hein. Donc l'Église est une émanation du royaume. C'est grâce au royaume que l'Église existe, mais ce n'est pas l'inverse. Hein. L'Église est un élément de la manifestation du royaume de Dieu. Amen. Alors, effectivement, j'ai introduit la notion d'Église missionnelle. C'est Luc Maroni qui l'a dit au détour de sa phrase. C'est effectivement les Églises qui ont cette vision de « up, in and out ». Bon, c'est les Anglais qui ont appelé ça l'Église missionnelle, l'Église en mission. L'Église qui n'est pas simplement une Église qui est statique, renfermée dans ses quatre murs. Ce n'est pas uniquement une Église qui s'occupe des choses célestes, mais s'occupe aussi de la cité. Et c'est pour ça aussi que je vous ai parlé de la gerbe, puisque suite à Luc, j'ai pu cette semaine moi-même constater l'impact des chrétiens dans la cité quand ils sont effectivement présents. Et quand ils agissent conformément au royaume de Dieu. Alors, la vision de l'Église missionnelle. Donc l'Église missionnelle est une Église concourante, où tout le monde court dans la même direction. Et donc cette Église, je vous propose de le voir aussi en trois parties, de la même manière que le royaume. Donc là, on parle de l'Église, hein, on ne parle plus du royaume, sachant que l'Église est une partie du royaume. Et l'ensemble des textes que je vous ai lus vous présente ces trois éléments qui sont les trois éléments importants. Si l'Église n'a pas ces trois éléments, ou si elle n'en a qu'un, ou si elle en a deux, ou un sur les trois, ou deux sur les trois, elle n'est pas concourante. Hein, vous voyez, c'est ça que je voudrais vous faire passer ce matin. Pour concourir ensemble, il faut avoir les trois éléments de cette Église. Alors, tout à l'heure, je vais parler des acteurs qui sont là, que Dieu a placés dans l'Église pour assurer cette concurrence. pour assurer cet objectif. Mais il y a les trois. Donc, il y a d'abord celui qui se tourne vers le ciel, hein, qui est tourné vers en haut. Mais ici, dans l'Église, c'est... Qu'est-ce qui peut terminer ma phrase ? Qu'est-ce que je vous propose ici ? Dans le royaume, c'est tourné vers le ciel. Et ici, c'est aussi up, mais vers quoi ? Vers le but. Alors ? Vous avez un but ? Est-ce que vous avez un but dans la vie ? Oui, dans l'Église, il faut des buts. Dans les matchs de foot, il y a des buts. Hein ? Vous voyez, les Américains, ils sont toujours un peu enfantins. Enfin, enfantins, je ne veux pas les critiquer, mais je dirais qu'ils sont toujours un peu différents. Et ils ne sont pas contents des matchs de foot, enfin du foot. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de buts. Voilà. Ils veulent plus de buts. C'est plus sympa de voir des buts. Vous avez 0-0, c'est pas marrant. Donc, ils allergissent les... Voilà, chez eux, ils sont plus larges. Hein, pour que les buts rentrent plus facilement. Voilà, c'est des règles simples. Hein. Vous voyez, c'est pour avoir plus de fun, quoi. C'est sympa. Voilà. Non, c'est juste pour voir, vous voyez, il y a une petite différence entre nous et les Américains, mais moi, j'aime bien. Je préfère voir des buts. Hein. Ça, c'est pour la petite histoire. Des buts. Est-ce que tu as des buts dans ta vie ? Hein ? Si on n'a pas de but, si on n'a pas d'objectif, si on n'a pas une direction vers laquelle regarder, mais c'est triste. J'imagine une vie sans but. Allô ? Tu t'es déjà posé la question ? Une vie sans but ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on va trop loin. On va toujours trop loin. C'est pour ça qu'il y a un équilibre. Hein. Dans les entreprises, à cause de la liberté des marchés qui sont complètement dérégulés, on fixe des objectifs qui sont de plus en plus durs, qui sont de plus en plus sévères, et qui amènent quoi ? Qui amènent la sinistrose, qui amènent les catastrophes, qui amènent les problèmes humains, etc. Pourquoi ? Parce que voilà, vivre que pour les buts, ça ne va pas. Mais vivre sans but, ça ne va pas non plus. Alors ? Vous avez compris ? Paul, il avait un but. C'était quoi son but ? C'était ? Eh, mais c'est toujours le même qui répond. Ah ! Il faut que je distribue des points, là. Hein ? On vient de le lire. Mon but est de le... Qui ? Christ. Mon but est de le connaître. Voyez-vous, si vous avez rien que ce but déjà, le connaître, est-ce que tu le connais assez, Jésus ? Non, on ne le connaît jamais assez. Donc c'est un but qui est le plus grand but de notre vie, c'est de le connaître. De toute façon, on ne le connaîtra que quand on sera face à face avec lui. Okay. Mais en attendant, plus on va le connaître, plus on sera heureux. Parce que le bonheur, il vient aussi de l'atteinte de ses buts, de ses objectifs. C'est une satisfaction d'atteindre un objectif. Alors, dans le management, ceux qui ont fait du management dans leur vie, on dit qu'il faut se fixer des objectifs raisonnables. Parce que si vous ne les atteignez jamais, vous allez être découragé. Donc il faut se fixer des objectifs raisonnables pour pouvoir les atteindre, de manière à ce qu'après vous en fixiez d'autres un peu plus. Bon, ça a une certaine pédagogie pour avancer. Mais dans la Bible, Paul dit « je veux le connaître ». Là, c'est quelque chose qui va nous tirer en avant jusque dans l'éternité. Parce que pour le connaître, il faudra toute l'éternité, et encore. Hein ? Parce qu'il est tellement grand, tellement immense, tellement formidable. C'est notre Dieu. Amen. Vous comprenez l'idée ? Donc l'Église doit avoir des buts. Allô ? Doit avoir des buts. S'il n'y a pas de but, eh bien, on n'ira nulle part. On tournera en rond. On ne pourra pas se jauger. Un but, ça permet de s'évaluer. Vous aimez bien les évaluations ? Ah, maintenant, il y a les évaluations annuelles. Hein. Ah, ça n'existait pas avant. Hein. Ah ben non. Ça a été introduit quand même. Quelque chose d'important. Vous savez que vous pouvez voir votre patron une fois, au moins une fois dans l'année. C'est déjà mieux que jamais. Avant, c'était jamais. Évaluer. Il faut avoir des évaluations. C'est obligé. Sinon, l'objectif, ça ne sert à rien. Vous pouvez fixer des objectifs sans évaluation, vous ne savez pas où vous êtes. Donc, ou vous êtes dans le délire, ah oui, j'atteins le but, ou alors, voilà, vous pouvez être dans la sinistrose, moi je suis bon à rien, j'arrive à rien. Non, c'est normal qu'il y ait des buts. Paul s'est fixé un but. Est-ce que tu t'es fixé un but ? Il faut se fixer des buts. Amen. faut se fixer des buts. Des buts raisonnables. De manière à ce que quand vous les avez atteints, vous dire, oh, quand même, merci Seigneur, tu m'as aidé à atteindre ça, je vais aller plus loin. Alors ? Sinon, vous n'arriverez à rien. C'est comme ça. Dieu nous a fait comme ça. Pour suivre des buts. Et ceux qui ne le font pas sont souvent des gens passifs. Passifs, dépressifs, voilà, sinistraux, je suis bon à rien, l'autre il est mieux que moi, etc. Voilà. Non, fixe-toi des buts. L'Église, c'est fixer des buts. Vous connaissez les buts de l'Église ? Ah, la vision, ça. Bon, on y viendra à la fin. Hein ? Mais les buts sont très importants. Et ils sont portés dans l'Église par qui ? Je parle des acteurs, là. Par qui sont portés les buts ? Allô ? Soyez pas timide, là. Par qui dans l'Église, par l'Église en général, hein, la nôtre aussi, dans l'Église, qui doit porter les buts ? Tout le monde ? Voilà une bonne réponse. Les responsables. Je veux dire, si ça commence pas par la tête, où est-ce que ça va commencer ? Bien sûr, tout le monde. Ok. Mais déjà, les dirigeants. Ben oui. Si les dirigeants n'ont pas de but, où est-ce qu'on va ? Bien sûr, tout le monde devrait en avoir. Mais par qui est donné l'exemple ? Josué. Par ceux qui dirigent. Mais là, je fais une petite nuance, pas que par le pasteur, par une équipe. Oui, non, mais une équipe dirigeante. Ça change par rapport à l'église pyramidale. Moi, je ne crois pas à l'église pyramidale. Si vous voulez une église pyramidale, je vous propose une adresse. Eh oui, ici à Aubergenville, il y a deux paroisses catholiques. Mais non, mais vous allez là, vous aurez des églises pyramidales. Plus pyramidale, je meurs. Oui, parce qu'il y a le pape là, et infaillible et tout ça. Allez dans les églises catholiques. Si vous voulez une église pyramidale, il faut aller là où c'est pyramidal. Si vous voulez une église en travail d'équipe, venez ici. Allô ? Ici, il faut un travail d'équipe. Et ça commence par la tête. Les dirigeants, c'est un travail d'équipe. Voilà. Donc, diriger vers un but, ce sont les dirigeants, les responsables, qui assument des responsabilités. C'est de se responsabiliser. Ok ? C'est comme ça que Dieu veut que l'Église marche. Il faut des gens qui soient responsables, c'est-à-dire qui répondent. Responsable veut dire répondre de la charge qu'on doit assumer. C'est répondre. Dire qu'est-ce que tu as fait ? Je réponds. Pour ceux qui ne connaissent pas la vision de l'Église, je vous l'ai dit quand même, que moi, tous les 3 ans, je suis démissionnaire de mon poste de pasteur. Voilà. Parce que je soumets mon travail de pasteur à votre vote. Si vous ne votez pas, je ne peux plus être pasteur. Même si je sens que l'appel de Dieu est sur moi, c'est normal, parce que je dois être responsable. Je dois me soumettre à vous pour me dire ça et ça, ça ne va pas. Il faut que je l'accepte. Il faut que je change. Vous voyez ? Pour ça, je fais un bilan tous les 3 ans et je fais une projection sur les 3 ans qui viennent. C'est mon devoir, parce que j'ai compris ma responsabilité. Okay ? Et l'ensemble des dirigeants sont amenés à faire ce travail pour que, ensuite, après, ça puisse faire boule de neige et que tout le monde puisse être responsable. Deuxième cercle, c'est le in. Alors ça peut être quoi le in dans l'Église ? On ne parle plus du royaume. Ça peut être quoi ? Je vous fais réfléchir ce matin. Laissez-vous guider par les textes qu'on a fait, qu'on a vus. Les textes là. On a lu 3 textes, 4 textes, mais enfin, il y a 3 directions. Alors là, vous avez pratiquement la réponse, puisque vous avez 50% de chance d'être bon. Les textes qu'on a lus. On a lu Philippiens, c'est quoi ? C'est le but dans Philippiens. Mon but est dès le... On a vu Éphésiens et Matthieu. Alors c'est quoi Éphésiens ? Oui, Éphésiens et Matthieu. Qu'est-ce que c'est Matthieu, mais qu'est-ce que c'est Éphésiens ? Allez. Pardon ? Là, je parle de Philippiens qui est le but. Et dans Matthieu, on a lu Matthieu et Actes d'ailleurs, Matthieu, et Éphésiens. Alors, quels sont... Pardon ? Il y a un appel. Appel dans quoi ? Dans quel texte ? L'appel est dans Éphésiens. Éphésiens. Donc, Éphésiens, vous notez l'appel. Hein ? Mon appel, ma vocation. Appel, vocation, c'est la même chose. Hein ? C'est du latin, vocare, c'est appeler. Appeler à. Je suis appelé à. Dieu m'a appelé à. L'appel. Et dans Matthieu, alors c'est facile, hein. C'est la mission. La mission. La grande mission, je vous ai dit, c'est la grande mission. Tout le monde l'appelle, les Anglais l'appellent commission. J'aime pas trop parce que commission fait penser à autre chose. La mission. Bon, vous avez compris. La grande mission, pas la grande commission. La grande mission. Ok, alors, vous voyez, il faut rattacher les textes à quelque chose de compréhensible. Matthieu, c'est la mission. Alors, on dit tous, Matthieu, c'est la mission. Les actes, actes des apôtres, au chapitre 1er, Jésus donne une mission. Ok ? Alors, on le redit tous. Matthieu et actes, c'est la mission. Allez ? Parce que quand on le lit, le cerveau, il enregistre. Ouais. C'est pour ça que je vous le fais. Et Éphésiens, c'est l'appel. Éphésiens, c'est l'appel. Alors attention, il n'y a pas qu'Éphésiens l'appel. Hein. L'appel est dans beaucoup d'autres textes. Donc j'ai pris Éphésiens parce qu'il est remarquable dans la notion de l'appel. Alors qu'est-ce que je mets ici ? Mission ou appel ? Là, dans ce cercle-là. Qu'est-ce que je mets là ? L'appel ? Qu'est-ce qui est pour l'appel ? Levez la main. Qu'est-ce qui est pour la mission ? Personne ? Ouais, vous osez pas, vous osez pas. Ah si, 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 si. C'est la mission, elle a gagné. Tac, tu reçois une grosse Bible. Alors j'aimerais bien savoir pourquoi tu as choisi la mission. Parce que je me suis dit, super. En plus, c'est le pourquoi. Hein. Il a pas dit la mission. Non, mais c'est exactement ça. Allez, être disciple, ça veut dire que on s'implique. On s'implique. On fait. Alors là, ce pavé-là, c'est pour moi le plus important. Dans l'Église, je parle. C'est le plus important. Parce que les autres sont un peu faciles. Dans le sens, on peut toujours se fixer des objectifs, des petits objectifs. Bon, on peut jouer un peu avec ça. L'autre, vous verrez, c'est un peu facile aussi. Mais celui-là, il est plus dur. La mission. Tout le monde veut aller dans la mission. Ça, toutes les églises parlent de mission. Moi, chaque fois, j'entends parler de mission, aller partout le monde, etc., etc. Mais pourquoi est-ce que je dirais que c'est le plus dur, c'est de s'occuper de la mission, de ce qui se passe à l'intérieur, et surtout en France. Surtout en France, c'est très difficile. Et je pense que c'est pour ça qu'on échoue. Alors, je me retourne vers Lucie. Tu as une idée ? Pourquoi ? La mission est difficile. Pourquoi ce pavé, parce qu'on va voir le troisième après, est le plus difficile ? Exactement. Déjà, c'est difficile à convaincre. Parce que chacun est pour soi. C'est le problème de l'individualisme. Chacun pour soi. Le français, paf, moi je suis le meilleur. On apprend ça à l'école. Hein. Il faut être le meilleur. Alors si tu n'es pas le premier, tu es nul. Donc tout le monde est le premier, voilà, c'est l'élitisme et tout ça. Donc déjà dans la formation française, on est poussé à ça. Donc c'est difficile parce qu'en tant que chrétien, on a cette formation en nous, hein, de l'élitisme, de l'individualisme, etc. Or là, c'est un travail d'équipe. On retourne à l'équipe et on a du mal à travailler en équipe. Et la mission, la deuxième chose qui est difficile. C'est parce que il faut travailler sous contrat. L'Église travaille sous contrat. Mais il est fou, André. Qu'est-ce qui lui arrive ? Eh oui. L'Église, c'est composé de gens. Vous êtes des gens. Hein ? Et les gens, il faut qu'ils travaillent sous contrat. Hein ? Philippe, quand il est au Bristol, il ne fait pas n'importe quoi. Hein ? Vous avez des consignes. Pour réussir l'objectif que vous avez d'avoir un palace, ça ne se fait pas comme ça. Si les petits jeunes y arrivent, ils sont formés, ils sont disciplinés, ils sont contractualisés. Et si ça ne va pas, on leur dit, vous voyez là, il y a une porte là, Okay. Elle est très belle, hein ? Elle est pour vous. Mais oui. Et ça, on ne veut pas dans l'église. Et c'est pour ça que ça ne marche pas là. Vous voyez ? Pour ça, ça ne marche pas. On a l'impression que l'église marche tout seul. On a l'impression, voilà, l'église, c'est comme ça, voilà, etc. Et là, mes amis, je peux vous dire, c'est à cause de ça que l'église ne marche pas. Parce que cet aspect-là, alors vous verrez, le troisième, là, tout le monde en veut. Mais celui-là, c'est très difficile. Parce que il faut se contractualiser dans un contrat mutuel, hein, les uns avec les autres, pour accomplir la mission. La mission ne se fait pas tout seul. Alors, quand tu étais parti avec Renty, tout ça, en mission, hop, on fait un débriefing, on fait une préparation de mission, etc. Voilà. La mission, c'est un commando qui se prépare. Hein. Si vous voulez attaquer, je ne sais pas, un commando qui a pris une banque, un truc comme ça, demandez à Arnaud, hein, vous faites des préparations de mission non, ou pas ben, voilà. Et c'est vrai partout. C'est vrai partout. Comment vous voulez accomplir une mission sans vous préparer, hein? Au tennis, c'est pareil. Avant un match, hein, il faut se préparer, il faut savoir qui on a en face, etc. Voilà, c'est une mission. Tous. Or, dans l'église, on n'en veut pas. Dans l'église, on a l'impression que tout va tout seul. Vous voyez, on a confié la responsabilité des enfants à Jean-Baptiste. Maintenant, la semaine, il m'a appelé, il m'a dit ceci, cela, il m'a posé des questions, etc. Est-ce qu'il s'est préparé? C'est vrai? Je t'ai vu, je t'ai entendu. C'est préparé. On ne se prépare pas quand on veut réussir quelque chose. Alors, moi, j'ai connu des pasteurs, je ne citerai pas qui, de toute façon, ils sont morts, dans l'église ici. Oui, non, mais j'aime pas trop parler des gens qui sont là pour les critiquer, mais simplement, c'est une réalité. On a vu des pasteurs ici qui prenaient le micro pour prêcher, et ça durait 2 heures, 2 heures et demie. Tout le monde s'endormait, tout le monde voulait partir, etc., jusqu'à 3 heures. Et quand on lui demandait, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, mais j'attends l'inspiration. Voilà. Alors il attendait l'inspiration, donc il ne savait pas trop où il allait. Il commençait à parler, parler, il emmenait tout le monde. Puis hop, le Saint-Esprit donne l'inspiration. Nous, on se prépare, mes amis. Moi, je me prépare. Il faut se préparer pour un message. Il faut se préparer. Le Saint-Esprit ne fait pas tout. Ouais, le Saint-Esprit va agir, etc. Oui, mais les conséquences, faut les assumer, les conséquences. Hein, l'auditoire qui s'endort, je veux dire, même quand il est inspiré, ils n'entendent pas. Non, non, il faut être préparé pour une mission. Donc là, on est dans la mission. Et cette mission, elle incombe à quels acteurs? Quels sont les acteurs dans l'Église? Je suis dans l'Église concourante. Quels sont les acteurs dans une Église comme la nôtre, mais... Pardon? Tout le monde. Non, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Justement, on va en sélectionnant là les gens. On sélectionne des gens. Toi tu peux pas, vous voyez? Ah ben non, c'est un contrat. Tu peux signer le contrat? Hier on a vu le contrat du Mayflower. C'est un contrat. Contrat politique, c'est un contrat. On veut travailler ensemble. C'est un contrat. Et oui, mes amis, il faut accepter la réalité de l'Église. On veut travailler ensemble, il faut travailler sous contrat. Ok? Oui? Les églises ne font pas. Et c'est pour ça que ça capote. Alors, ces gens-là, je les appellerai des associés, des engagés. Et oui, des gens qui sont engagés. Je m'engage. Je suis prêt à travailler avec toi. Je suis prêt à souffrir avec toi. Je suis prêt à accepter de faire un bilan avec toi. Je suis prêt à me soumettre à toi. Je suis prêt, soumettez-vous-les. C'est marqué dans la Bible? Ou c'est inventé? C'est Bouddha qui l'a inventé? Bon. Donc on est dans l'Église. Soumettez-vous les uns les autres par rapport à quoi? Par rapport à un contrat. Par rapport à des règles, par rapport à des lois. C'est ça? Hello? J'ai plus personne qui dit Amen là. Non, non, mais vous n'êtes pas obligé, hein? Je n'oblige pas à dire Amen si vous ne le croyez pas. Je veux dire, on est en train de parler de l'Église. Et l'Église, il y a d'abord les dirigeants qui doivent montrer l'exemple pour le but. Parce que si les dirigeants... Pourquoi... attendez, j'aime pas trop Napoléon Ier, mais on le prend toujours en exemple parce que c'est vrai, il a quand même fait des choses assez étonnantes. Pourquoi Napoléon Ier était un manager, un dirigeant hors pair? Une des qualités, parce qu'il était toujours devant. Il était toujours devant. Quand il fallait prendre le plus grand risque, c'est lui qui le prenait. Quand il fallait traverser un pont qui était petit comme ça, et puis en face, il y avait les canons qui le canardaient, eh ben lui, il y allait. Bon, il pouvait se faire trucider, il se trouve que ça n'a pas été le cas. Mais un dirigeant est toujours devant, sachez-le. Sinon, ce n'est pas un dirigeant. OK ? Voilà, donc il faut qu'il soit devant. Mais ensuite, après, il y a les troupes qui suivent. Et les troupes, bah, il faut qu'elles soient engagées. Engagez-vous, dit l'autre. Non, je dis quelque chose qui n'est pas bon. Dites-le-moi à la fin du culte. Mais je vous garantis que c'est ça qui achoppe dans les églises. Parce qu'on a l'impression que le Saint-Esprit va tout faire. On a l'impression qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Non, il faut travailler pour une mission. Et pour ça, il faut s'associer. Il faut être engagé. Alors le troisième, c'est le out. Et il est composé... qu'est-ce qu'on mettra dans ce cercle ? Non, mais dans les trois mots qu'on a vus, des textes qu'on a lus. Pardon ? L'appel. Voilà, c'est ce qui reste. L'appel. L'appel, la mission et le but. Le but, la mission et l'appel. L'appel. Éphésiens dit, nous sommes appelés. À. Appelés à quoi ? À un plan. Un plan extraordinaire que Dieu a prévu d'avance. Nous rentrons dans un plan, un dessein de Dieu pour nous. Pour l'Église, il y a un plan. Nous sommes appelés à. Et ça, ça concerne qui ? Ben, tout le monde. Voilà. Là, vous auriez pu le dire, vous aviez raison. C'est là qu'il faut dire tout le monde. Les dirigeants, les associés, et là, c'est tout le monde. Tout le monde. À partir du moment où on accepte Jésus-Christ, eh bien, on est appelé. La seule chose que nous, on dit évangélique, alors c'est la différence entre protestant et protestant évangélique. Protestant évangélique, ça s'appelle les confessants. Les protestants tout seuls, si vous enlevez le mot évangélique, c'est les multitudinistes. Multitudiniste, ça veut dire la multitude. C'est-à-dire vous êtes baptisé enfant, donc voilà, vous ne savez pas pourquoi vous êtes chrétien, et puis voilà, vous suivez les parents, allez dans l'église, etc. Bon, ce qu'on appelle les multitudes. Donc catholique, c'est multitudiniste, protestant, c'est multitudiniste. Évangélique, c'est confessant. Je confesse Jésus-Christ. C'est pour ça le baptême, c'est les baptêmes de confessants. Et le principe du baptême, c'est qu'on demande aux gens de confesser leur foi en Jésus-Christ, et sur la confession de leur foi, sur la confession de leur foi, on les baptise. On ne les baptise pas parce qu'ils sont les enfants d'un tel qui sont chrétiens, vous voyez ? On les baptise sur la confession de leur foi. Ça s'appelle le mouvement des confessants. C'est né en 1848, je sais parce que c'est 100 ans avant ma naissance. 1848, c'est l'ensemble des protestants du monde entier qui voulaient arrêter l'hémorragie du protestantisme libéral qui ont fondé le mouvement évangélique, qui est un mouvement de confession. Vous apprenez des choses ce matin ? Donc, les trois pôles qu'on a vus sur le royaume de Dieu sont ici. Si, donc, le centre, si vous voulez, c'est l'église concourante, hein, ou l'église équilibrée, l'ecclésia. Cette église, si elle ne manifeste que la partie supérieure, c'est quoi comme église ? Dans quel travers elle tombe ? Pardon ? Pyramidale, on peut dire, mais quelque chose que vous connaissez très bien, qui est la difficulté de la France dans notre témoignage avec les gens. C'est le cléricalisme. Vous savez ce que ça veut dire, le cléricalisme ? Non ? Les Français sont anticléricaux. Clérical. Ça vient de clerc, C-L-E-R-C, clerc. Les clercs et les laïcs. Ça vous dit quelque chose ? Vous avez entendu parler de ça ? Les clercs et les laïcs. Dans l'Église catholique, ceux qui ne connaissent pas le catholicisme, je vous apprends une chose, c'est qu'il y a des clercs et des laïcs. Il y a ceux qui peuvent dire la messe et ceux qui ne peuvent pas la dire. Les curés, les seuls, sont intermédiaires entre Dieu et les hommes, qui peuvent lire la messe. Aucun laïc ne peut dire la messe. Ils peuvent, ils ont trouvé tout un tas d'artifices pour que la messe puisse avoir lieu, tout ça, voilà. Enfin bon, vous voyez, les jésuites, ils sont très habiles pour contourner les choses, mais en tout cas, ils ne peuvent pas lire la messe. Ils peuvent faire des adapts, ils peuvent faire des choses comme ça. Et encore là, les nouveaux prêtres, les nouveaux évêques, parce que c'est eux qui dirigent, reviennent en arrière là-dessus. Mais Il y a les clercs et les laïcs. Il y a ceux qui prient et ceux qui travaillent. Vous voyez, c'est comme ça que les clercs sont nés. Vous dites, ah mais oui, mais les gens du peuple, ils n'ont pas le temps de prier. Ils ont trop de travail. Donc, on va demander à des gens dans les monastères de faire que ça. On va même les payer, etc. Vous voyez, c'est comme ça que c'est né. C'est une logique, une certaine logique. Mais ce n'est pas la Bible. La Bible dit que nous sommes un sacerdoce. Nous sommes une... C'est un Pierre. C'est ça les principes de la réforme protestante, qui a dit que le sacerdoce est universel. Le sacerdoce universel. Tout le monde peut lire la messe, si vous voulez. On ne lit pas de messe, mais tout le monde est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Tout le monde. Pourquoi ? Parce que le voile a été déchiré dans le temple. Le voile a été déchiré dans le temple. Et on peut aller dans le lieu très saint. Dans votre chambre, dans votre intimité. Vous avez... C'est ça, la réforme. Qui a remis les choses en place. Donc là-haut, c'est du cléricalisme. Si l'Église est déportée vers le haut, c'est les grands qui suivent le but, oui. Mais les autres, ils ne comprennent rien, c'est des mystères, le mystère de la mer, mystère, voilà. Et puis ils suivent, ils essayent de suivre, voilà, etc. En bas à droite, s'il n'y a que ça, l'Église en mission, dans quel travers cette Église va-t-elle tomber ? S'il n'y a que la mission, il n'y a pas le but et il n'y a pas l'appel. Pardon ? L'idolâtrie, ça c'est un terme général, tout le monde est un peu idolâtre. Mais une déformation particulière dans laquelle l'Église peut tomber. Alors je vais vous choquer tout de suite, hein, j'aime bien. Non, le socialisme. J'ai rien contre les socialistes, mais le socialisme. Allez, je vous ai dit, je vais vous choquer. Le socialisme. Pourquoi ? Parce que c'est du social. Je fais du social. Vous voyez ? Je travaille pour la mission. Je fais ceci, je fais cela. Alors, on pourrait l'appeler l'activisme aussi. Hein. Mais c'est le domaine social. Vous voyez ? Je m'engage. Et ça existait, l'évangile social. Hein. En Argentine, tout ça, où ils ont beaucoup été confrontés, les révolutionnaires, au cartel, etc. Enfin, voilà, à la drogue et tout. Donc les chrétiens ont pris cette dimension-là. C'est important, mais tout seul, on tombe dans le socialisme. Vous voyez ? Activisme. Et à gauche, si on fait que ça, l'appel. Dans quoi on peut tomber ? Pardon ? L'appel. Vous voyez ? Je suis appelé par Dieu, je suis appelé par Dieu, je suis appelé par Dieu. Mais je fais que ça. Hein ? Je suis appelé par Dieu, je suis appelé par Dieu, je suis appelé par Dieu. Qui est une réalité, je suis appelé par Dieu. Mystique. On devient mystique. Ah, on se mystique, spiritualiste, si vous voulez. On spiritualise. Vous voyez, comme il n'y a plus de contact avec la réalité, je spiritualise. Donc il y a des chrétiens qui spiritualisent, des églises qui spiritualisent, qui mysticisent. Vous voyez, ils sont déconnectés du réel. Si on veut être une église concourante, il faut avoir les trois. Tout. Comme le royaume de Dieu doit être équilibré, il faut que cette église soit équilibrée dans ces trois dimensions, up in and out. Okay. Je termine donc les écueils, on les a vus, hein, c'est le cléricalisme, le socialisme et le spiritualisme. Et ensuite, on a les organes. Donc les organes, c'est une maison, c'est un état des services, la congrégation, mais ça on le verra plus tard quand on formera les gens pour l'Église. Donc là c'est concourir, là c'est consensualiser. Je pensais avoir inventé des mots, vous savez, comme moi je ne suis pas du tout littéraire, c'est ma femme. Des fois je dis, ce serait bien ce mot-là. Je regarde et je dis, il existe, je ne le connaissais pas. Consensualisme, ça existe. Donc, je ne l'ai pas inventé. Consensualiser. Consensualiser, ça veut dire aller dans le même sens. Et aller dans le même sens de la mission. Et pour aller dans le même sens, vous voyez, on retrouve l'aspect engagement, c'est avoir un consensus, c'est avoir un consentement. C'est-à-dire, l'Église n'impose pas, vous voyez, un mariage par consentement, c'est que les deux parties sont d'accord. Il n'y en a pas un qui l'impose à l'autre. Mariage par consentement, alliance par consentement. L'Église, c'est c'est des gens qui s'associent par consentement. Ils acceptent, mais ils se soumettent. Vous voyez et ce qui fait que ça évite justement qu'il y ait des têtes qui dépassent. Voilà. Non, on est tous ensemble par consentement, par consensualisme. Et le troisième volet, c'est se concentrer. Se concentrer sur l'appel, se concentrer sur Jésus, se concentrer sur Christ, se concentrer sur le plan que Dieu a pour nous. Et donc, voilà, ces trois éléments, nous devons avoir ces trois éléments dans notre collimateur. Les fonctions, la première fonction, c'est de garder la vision, garder les valeurs, garder la charte, garder le but. Deuxième fonction, c'est adopter la vision, l'adopter et la mettre en pratique. Et le troisième, c'est témoigner de notre amour pour Dieu et de notre identité en Christ. Et là, j'arrive à la vision, pour ceux qui ne la connaissent pas encore sur le bout des doigts. Notre but, on a un but, c'est le but fève. Vous savez, les fèves qu'on trouve... c'est pas la chandeleur, c'est... Si Galette des Rois ? Les fèves. Fève, c'est F-E-E-V-S. Et ça veut dire quoi ? Ah, vous ne connaissez pas la vision de l'Église. Ça, c'est notre but. C'est votre but. F, c'est viser. Non, non. C'est voir des familles. Des familles. Voir des familles. Je ne m'en rappelle même plus moi-même. Des familles dans l'excellence. Les familles dans la dignité. Les familles. Vous voyez, on est appelé à avoir le but de construire des familles qui sont équilibrées, qui sont saines. Des familles où les couples s'entendent, les familles où les couples s'entendent avec les enfants, vice-versa, etc. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est notre but. Deuxième but, c'est une église accueillante et dynamique. Dites accueillante et dynamique. Et oui, si on poursuit ce but, et oui, on a un couple extraordinaire, Charles et Sylviane, qui sont pour l'accueil. Parce que c'est une fonction importante, l'accueil. Avec le sourire. Hier, il y avait le sourire, il y avait tout. C'était excellent. Merci Charles et Sylviane. C'était excellent. Formidable. Mais c'est parce qu'il y a un but. Il n'y avait pas de but, on ne le prendrait pas en ligne de compte. Le troisième E, c'est peut-être moins évident pour vous, mais pour moi, je l'ai vécu dans la chair, ce troisième but. Et je veux qu'il soit transmis dans l'Église. C'est quoi ? Le E, le deuxième E. Deuxième, c'est Église, et le troisième lettre, c'est E, comme école de formation pratique. Ici, c'est une école de formation pratique. Je peux vous dire que vous apprenez plus dans l'Église qu'à vos sur-scènes. J'ai rien contre vos sur-scènes, j'ai rien contre les écoles bibliques, mais je peux vous dire que quand vous sortez d'une école biblique, si vous n'avez pas une école de formation pratique, vous ne faites rien du tout. Moi, avec Michel, on a rencontré tout un tas de pasteurs qui sont sortis, qui étaient dans la dépression, les femmes qui pleuraient, tout ça, voilà. Parce qu'ils découvraient ce que c'est que l'Église. Maintenant, il faut une école de formation pratique. Savoir comment ça marche, le combat spirituel. Savoir comment ça marche, la délivrance. Savoir comment ça marche, la relation d'aide. Savoir comment ça marche, les relations entre les gens. C'est ça. Et ça, on l'apprend sur le terrain. Sur le terrain, mes amis. Et ici, c'est une école de formation pratique. Et je vois les uns et les autres, à chaque fois que vous êtes confronté à une difficulté, que vous la dépassez, vous êtes plus fort. Vous comprenez ? Parce que vous avez appris quelque chose qui est en vous. Moi, ce que j'ai appris dans les années 98, je peux dire que voilà, je vais partir dans la tombe avec, parce que je ne peux plus l'oublier. Parce que pratiquement, j'ai vu la manifestation des puissances. Pratiquement, j'ai vu ce qui se passait. Et je ne peux plus accepter si quelqu'un dans l'Église veut faire autrement. Ce qu'il dit, non. Je sais que ça marche comme ça. Je sais et je peux vous démontrer que ça marche comme ça. Oui, parce que je l'ai vécu. École de formation pratique. Ensuite, après, le V, c'est quoi ? C'est la ville. Il ne faut pas oublier la ville. La cité. Et le S, société. La société. Non, c'est les buts. Hein. Le service, c'est la mission. C'est notre objectif. On veut regarder à ce qu'on soit des facteurs de changement de la société. Alors, Chacun, là où nous sommes des facteurs influents sur la société dans tous les domaines où Dieu nous place. Hello ? Oui, c'est pas compliqué la vision. Il faut voir des buts. Ensuite, après, je termine. C'est la mission, c'est le PEA. Waouh ! C'est un acrostiche, hein, attention. C'est un piège. C'est-à-dire le E. Le premier. Premier. Ah, je vois que vous ne connaissez pas votre vision. Non, mais toi, tu es exclu, pas de l'église. Le E, c'est quoi? Ah, dommage, c'est le dernier. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. T'as déjà un point. Le E, le premier, c'est quoi? C'est établir des communautés. Alors, c'est pas qu'une église, c'est l'église de maison, enfin des groupes de maison. C'est une communauté. C'est un groupe de personnes. Établir des communautés avec des personnes libérées dans toute leur personnalité. Des hommes libérés dans toute leur personnalité. Parce que si on n'est pas libéré dans toute sa personnalité, on ne peut pas établir des communautés saines. Un leader qui n'est pas sain ne peut pas être un leader qui amène des relations saines. Paul Goulet, ceux qui ont fait équipe. Ok ? Bon, je suis obligé d'être très vite, hein, parce que je n'ai pas prévu de vous dire ça. Mais équipe. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai perdu le fil. Établir. Établir. C'est des termes d'action. Hein. Établir. Le P, c'est quoi? Prier sans cesse. La prière n'est pas là. Hein, c'est les priorités. Hein, trois priorités. Établir, prier, évangéliser. Et le petit A, c'est la manière d'évangéliser. Parce que moi, je connais des chrétiens qui évangélisent à la mitraillette. Mais je peux vous dire, tout le monde est ratiboisé. Hein. Vous passez derrière, il n'y a plus personne. Tout le monde est tombé. Voilà. Non, c'est évangéliser comme des ambassadeurs. Le A, c'est ambassadeur. Hein. Vous voyez, c'est simple à se rappeler la vision. Comme des ambassadeurs du royaume, là où Dieu nous place, dans la ville, la société, etc. Et dernier, c'est l'ABC, le plus simple, l'ABC. L'ABC de la vision, c'est l'appel. Et qu'est-ce que c'est le A? Qu'est-ce que c'est que le B? Et qu'est-ce que c'est que le C? Ce sont trois verbes. Trois verbes. C'est pas agir, non. C'est accueillir. Le B, c'est bénéficier. Et le C, c'est centrer sa vie sur Jésus. Le A, c'est accueillir quoi? Le plan de Dieu. On a vu l'appel, le plan, le dessein de Dieu, ce que Dieu a préparé pour moi. Si je l'accepte, si je l'accueille, je peux rentrer dedans parce que c'est Dieu qui va mettre en moi le vouloir et le faire. B, c'est bénéficier de la quoi ? Qu'est-ce qu'on a besoin dans la vie ? Le plus. Qu'est-ce que tous les hommes recherchent, même s'ils ne sont pas croyants ? Les francs-maçons, entre autres, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Tout le monde cherche ça. Tout le monde. Dans tous les peuples, dans tous les âges, de toutes les... C'est la sagesse. C'est savoir comment se comporter dans la vie. Pourquoi qu'on ait de pépins, pourquoi que ceci, cela. C'est la sagesse. Or, qui donne la sagesse? C'est Dieu. Lisez Proverbes, lisez Ecclésiastes, livre de la sagesse. Okay, c'est ça qui va vous donner le plus de capacité à ne pas avoir de bigne sans arrêt dans votre vie. C'est la sagesse, c'est ce qui nous manque le plus. Mais Dieu nous donne la sagesse. Donc, il faut bénéficier de la sagesse de Dieu et se méfier de la sagesse des hommes. C'est ça la vision. Amen. On va s'arrêter là. Donc ces trois éléments, quand nous les avons, nous pouvons aller de l'avant. Amen. Le C, c'est centrer sa vie sur Christ. Alors centrer sa vie sur Christ, il y a trois étapes de maturité, vous les avez dans la vision. C'est d'abord s'orienter dans la boussole, guérir des blessures du passé et établir les valeurs du royaume dans notre vie. Tout ça, c'est marqué dans la vision. On va prier. Seigneur, nous te prions pour que, Seigneur, nous puissions être cette église qui n'est pas bancale, qui, Seigneur, comme dans le passé, a pu manifester toutes ses déviances. Seigneur, c'est vrai que nous avons besoin de toi pour que nous puissions être cette église que tu veux que nous soyons ici à Aubergenville, parce que tu l'as établie pour que ton royaume puisse se manifester au travers de nous. Alors, Seigneur, merci de nous accorder ta grâce afin que nous vivions cette vision et la mettions en pratique, pour que nous soyons édifiés mutuellement, mais aussi que ton nom, ta gloire puisse se manifester dans tous ces domaines, dans tous ces aspects. que nous avons évoqué ce matin. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Nous te remercions pour ton esprit qui nous inspire à bien la comprendre pour la mettre en pratique. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.